Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée au western italien, avec quatre films qui sortent chez deux de nos éditeurs préférés, à savoir Sugar Colt, un film de Franco Giraldi, un film de 1966, et Saludo Sombre, un film de 1968 de Sergio Solima. Ces deux films sont disponibles dans des superbes copies 4K là, chez Artus Film. Et puis, il y a une sortie, pareil, dans une très belle édition, un très beau remastering, très belle restauration, c'est les deux Trinita. À savoir, on l'appelle Trinita et on continue à l'appeler des Trinita, des films de, respectivement de 70 et de 71, et qui sont des films réalisés par Enzo Barboni Clocher, plus souvent appelé E.B. Clocher en fait, mais c'est bien plutôt Enzo Barboni, son vrai nom à ce monsieur. Ça, c'est chez Rimini Éditions. Alors, ces quatre films, quelque part, sont importants, chacun à leur manière, dans l'histoire du western italien. Et donc, on voulait vous en parler aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin dans cette émission, on va remercier Sandrine Hiver, Kevin Boissezon, Thierry Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide. Et pour causer pistolero, pour causer cowboy, je suis bien sûr accompagné de mon fidèle acolyte. Alors, il n'est pas venu sur son destrier avec ses têtes sales et tout, mais il a quand même son chapeau. Hein. Il a continuellement son chapeau. Bon, il l'enlève pour mettre son casque dans le studio. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland, alias le cowboy picard, hein, qui chaque nuit de pleine lune surveille son troupeau afin d'éviter que de vils voleurs viennent lui prendre ses vaches qui sont son gagne-pain. Hi, Thomas.
Hi, Jérôme. And hi to all the cowgirls who are listening to us.
Sugar Colt. Sugar Colt.
Mon cher Thomas, nous allons débuter cette émission par un film signé Franco Giraldi. Alors Franco Giraldi, il est un peu oublié aujourd'hui. Il est mort il n'y a pas si longtemps que ça, il est mort en 2020. Il était né au début des années 30, donc quand même une vie assez conséquente. Il était en 31, très exactement, dans ce qui est aujourd'hui la Slovénie. Puis après, il est venu s'installer en Italie. Il a beaucoup travaillé aussi sous des pseudos, entre autres Frank Garfield. C'est comment dire, quelqu'un qui est d'abord critique de cinéma. Il travaille au journal L'Unita. Et après, il va devenir assistant réalisateur de réalisateurs quand même assez prestigieux, parce qu'il va être l'assistant de Sergio Leone. C'est d'ailleurs un de ses titres de gloire, de Sergio Corbucci. Il a travaillé quand même avec deux des trois Sergio, c'est pas mal. Il va aussi travailler avec Gillo Pontecorvo, ce qui place politiquement un peu le personnage. Alors, il va être connu pour la série des 7 Écossais, hein. Voilà, les sept écossais du Texas, les sept écossais qui explosent aussi, voilà. L'un de ses premiers films, c'est Sugar Colt. Ce Sugar Colt, donc, que nous sortent là nos amis de Artus Film. Alors, ils le sortent dans une édition 4K, dans une copie 4K. Il y a eu on a mis quelques temps parce qu'ils ont peaufiné l'édition. Il a fallu revoir certaines choses. Les sorties ont été décalées. Mais au final, on peut voir ce Sugar Colt, alors que j'avais vu il y a longtemps, et qui est un western italien, là, qui est, on va dire, dans une bonne moyenne. Mais Franco Giraldi, c'est quelqu'un d'important dans le western italien, dans le sens où, en tant que critique et en tant que réalisateur, il a travaillé, comme je l'ai dit à l'instant, avec les plus grands du western italien. Il était très respecté. Moi, je me rappelle... pour avoir eu la chance de rencontrer Sergio Solima et Tonino Valerii, qui étaient venus au Festival du film d'Amiens, qu'ils avaient tous en grande estime Franco Giraldi. Alors là, l'histoire, c'est quoi? On est en 1866, on est au Nouveau-Mexique, la guerre de sécession donc est terminée, et puis les soldats nordistes retournent chez eux. Et c'est là que le bataillon des tireurs d'élite de la 3e brigade, sous les ordres de son capitaine, fait le chemin et se fait attaquer. Ils disparaissent. Quoi. Ils disparaissent. Ils n'arrivent pas à bon port. Voilà. C'est alors que Alan Pinkerton, joué par Georges Rigaud, qu'on connaît bien, acteur argentin qu'on a pu voir dans pas mal de films intéressants, comme Le Couteau de glace, par exemple, d'Umberto Lenzi, qu'on voyait déjà dans Cet Écossais du Texas, par exemple, dont je parlais un instant, qui était dans Le Colosse de Rhodes, de Léoné, qui est dans Toutes les couleurs du vice, de Martino. Il a fait énormément de giallo. Il trouve un des rôles dont il a le secret avec sa bonne bouille et qui inspire confiance. Voilà, on va dire ça comme ça. Ben lui, il va aller à la recherche et il va essayer de les retrouver et il va décider de faire appel à son ami qui est considéré comme le plus grand détective de la région, qui est Sugar Colt. Et ce Sugar Colt, donc, c'est Jack Betts. Donc c'est qui? C'est Hunt Powers, évidemment. Je tiens à vous signaler aussi que dans la distribution, il y a la très belle Soledad Miranda, qui a eu une carrière éclair, et que tous les bisophiles adorent. Et puis, pour achever le tout, signalons qu'il y a aussi Louis Bacalov à la musique. Et que parmi les auteurs du scénario, il y a du monde, mais il y a Fernando Dileo, par exemple, qui a œuvré sur pas mal de westerns, qui faisait un peu office de script doctor. Voilà. Alors, c'est intéressant qu'on parle de ce western, parce que, déjà, il y a quelques éléments originaux. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une agence de détectives dans laquelle les tireurs d'élite ne sont pas des tireurs d'élite, ce sont des tireuses d'élite. Donc il y a une chose assez peu commune, en fait, dans les westerns italiens, de voir des as de la gâchette qui sont des femmes. Il y a aussi, alors qu'on est en 66, une tentation aussi du burlesque dans le film, avec l'utilisation, on va dire, d'herbes qui font rire, hein, voilà, d'herbes chamaniques. Voilà. Il y a des moments donc dans le film un peu étrange, et puis d'autres plus violents. Il y a des scènes de tabassage. Le film est un peu hésite entre plusieurs genres. C'est trépidant, c'est très rythmé, il se passe plein de choses. On peut pas trop en dévoiler sur l'intrigue parce que c'est la question des rebondissements, elle est importante, mais disons que ça fait partie de ces films sans prétention, très bien troussés, très bien mis en scène, très bien photographiés, et qui sont des westerns qui sont quand même un peu à cheval entre le western américain et le western italien, avec, ce que je disais, cette tentation du burlesque qui sera complètement assumé dans les deux derniers films dont on va parler aujourd'hui dans cette émission, quoi. Voilà. Donc c'est un, parce qu'il y a aussi une scène avec un gaz hilarant, tout ça. Enfin, il y a des scènes assez étonnantes, des scènes qui sont des scènes qu'on ne s'attend pas à voir dans un western italien en 66. Des scènes de comédie, quoi. Voilà, très, très clairement. Et le film ne verse pas non plus tout le temps dans la gaudriole, hein. Et c'est aussi un western avec son super Hunt Powers qui maîtrise bien. Évidemment, on s'appelle pas Sugar Colt pour rien, vous imaginez bien, hein. Voilà. Qui maîtrise bien l'art du pugilat et les armes à feu. Voilà. Mais disons que ce western-là, c'est une mise en bouche. C'est une mise en bouche avant d'arriver. Alors, oui. Je vous entends. Je vous entends, l'épice froid. C'est peut-être le moins bon de la trilogie. Ok, de Sergio Solima. Mais c'est quand même vachement, vachement, vachement bien. Voilà, c'est quand même un excellent film. Et moi, je suis très content de voir Saludo Sombre.
Amigos míos, ya lejos me voy a esa guerra cruel. Puede ser que el coraje vendrá, se ocurrirá. Quién sabe si esperanza no habrá o si el espanto vendrá, pero estén seguros que ese es es un canto lindo, lindo, y está aquí, dentro de mi pecho, ya.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Compañeros, por quien busca la revolución, también la muerte nos gustará. Y seremos contra el peligro y alegre estará el corazón por la justicia. Chiquitas se ven despojadas de la flor de la vida, el amor, pues adoradas ya no son más. Y para nosotros es la vida más profunda, la idea será y sea la vida
Saludo Sombre. On est en 68. En 68, en Italie, il se passe plein de choses, comme en France d'ailleurs. Hein. C'est le début de mouvements politiques très forts qui vont être des mouvements émancipateurs. Parce que s'il y a eu mai 68 en France, il y a eu l'équivalent en Italie. En plus, ça a perduré en Italie. Il y a eu l'Italie, ça a été vraiment un vrai laboratoire politique. Pour l'extrême gauche, ça a été vraiment, et pour le syndicalisme, une période très stimulante intellectuellement, et qui malheureusement, il y a eu les années de plomb, il y a eu que certains font débuter d'ailleurs en 68, hein, et il y a eu voilà malheureusement un peu une réécriture de l'histoire où on a oublié aussi la place que tenait l'extrême droite qui a énormément pratiqué l'attentat, la violence qui a tué beaucoup de monde et qui est à l'origine en fait aussi l'extrême droite et ses attentats à une réponse conséquente de l'extrême gauche. Voilà. Après, on juge l'histoire comme l'on veut. On est longtemps après nous, hein, donc c'est facile aujourd'hui d'avoir un regard inquisiteur sur cette période. Et pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que Sergio Solima. Je vous l'ai déjà dit dans l'émission, que j'ai eu le bonheur de rencontrer, d'interviewer, qui m'avait profondément marqué, était un réalisateur très politique, en fait, et qui faisait du cinéma populaire pour faire aussi passer des messages, mais pas pour asséner des messages. C'était subtil, c'était fin, c'était intelligent, sa trilogie, elle est fantastique, hein. C'est-à-dire qu'elle démarre avec Colorado. Colorado, le titre français c'est Colorado, La Reza et des Conti, où en fait on va découvrir ce personnage de péon de Mexicain, qui est campé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, par un acteur cubain. Vous savez comment on dit acteur de génie en cubain? On dit Thomas Millán. Il est campé par Thomas Millán, voilà, qui nous a quittés il y a peu d'ailleurs. On a cru qu'il allait jamais mourir, Thomas, un peu comme Kirk Douglas, mais il a fini par mourir quand même. Et j'adore Thomas Millán, j'adore Sergio Solima de toute façon. Et donc, c'est l'histoire, Colorado, c'est l'histoire d'un pauvre péon. Qui est un pauvre péon, c'est le lumpen prolétariat. Donc, forcément, il y a eu des agressions sexuelles, des meurtres d'enfants par un pervers, par un pédophile. Donc, forcément, c'est la faute du péon. Donc, il y a un homme politique important qui engage un tueur à gages, Corbett, qui est joué par le génial Lee Van Cleef. D'ailleurs, Solima nous avait dit Lee Van Cleef, très facile à diriger. Dès lors qu'il avait eu ses bières du matin, on était tranquille, ça roulait tout seul. On a donc Lee Van Cleef qui est génial dans le film, tout comme Thomas Millán. Donc il poursuit Thomas Millán et petit à petit il va se rendre compte que c'est peut-être dans l'entourage de cet homme politique qu'il y a un pervers et que ce Mexicain fait office de coupable idéal. Et l'idée de génie, parce qu'en fait Solima, nous ce qu'il nous avait expliqué à l'époque quand on l'avait rencontré, c'est qu'il voulait créer avec ce personnage Cuchillo, ça veut dire couteau, le premier héros du tiers-monde. Donc on est à l'époque, je crois que le premier 64, je crois hein, d'ailleurs, hein, je crois que c'est, ou juste l'année d'après le Léon, il me semble. Bon, c'est pas grave, j'ai un trou de mémoire, peu importe. Et en fait, ce qui se passe, et l'idée géniale, c'est que ce péon, il est tellement pauvre qu'en fait il a pas de flingue lui, il a un couteau. Et donc, il jette des couteaux. Quand il affronte flingue contre couteau. D'ailleurs, ça va donner une scène mémorable, un final incroyable, justement, au premier volet de cette trilogie de Solima dans le western. Après, il va y avoir Faccia a Faccia, où il n'y a pas Cuchillo. Hein. Il y a encore Thomas Millán, qui campe, comment dire, un bandit de grand chemin, hein, qui campe le chef de la horde sauvage, et qui va rencontrer un instituteur tuberculeux, donc un type intelligent, cultivé, et qui va se rendre compte que s'il utilisait la violence de ce bandit de grand chemin, associé à son intelligence à lui, il pourrait faire de grandes choses. Et en fait, le film est génial parce que qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire d'un monstre, en fait. D'un monstre qui est cet instituteur face à cet homme qui n'a pas d'éducation, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, mais qui a des principes. Qui a des principes et qui a des valeurs politiques malgré tout ce qu'on peut en penser. Et les deux personnages vont s'inverser, en fait. Et Thomas Millán, au contact de ce personnage, va se rendre compte de ce qu'est vraiment le mal. Et il va l'affronter. Et on va retrouver ce qu'on avait là dans le film dont on a parlé avant, la Pinkerton, puisqu'il y a un acteur génial aussi qu'on a complètement oublié aujourd'hui qui s'appelle William Berger. Je fais un coucou à Christophe Schaffner parce que je sais qu'il est comme moi, il adore William Berger. Et il y a William Berger qui fait un détective de la Pinkerton. On parlait de la Pinkerton pour Sugar Colt, la fameuse agence de détective, l'ancêtre du FBI. Et c'est lui qui va se rendre compte que Thomas Millán est en train de devenir quelqu'un de bien, tandis que, enfin, entre guillemets, évidemment, on part de loin, hein, et que l'autre est en train de devenir une vraie ordure. Et lui va être le juste au milieu de tout ça. Enfin, je ne vous raconte pas tout le film. Et puis, Solima, donc en 68, il va donner une suite, enfin, il va donner une fin à cette trilogie et une suite donc à Colorado, où on va retrouver Cuchillo, Cuchillo qui est toujours interprété par Thomas Milian, qui est toujours ce petit Mexicain hableur, ce petit péoné qui n'a peur de rien et qui est toujours expert en lancer de couteau, qui est toujours voleur, hein, voilà, coureur de jupons. Alors là, il a la bomba latina Chelo Alonso comme femme, qui lui en fait voir aussi de toutes les couleurs. Hein. Bon, voilà. Comment Cuchillo, il est chargé par un révolutionnaire mexicain sur le point d'être exécuté, d'aller récupérer au Texas le trésor caché de Juarez. Mais bien des intérêts s'y opposent. Torture, meurtre, exécution sommaire vont être ses compagnons de route. Écoutez Culture Prohibée spéciale Western Italie. On va retrouver en fait dans ce film tout ce qui fait le sel. Il y a des scènes mythiques avec Cuchillo accroché au pal d'un moulin. Il y a toujours ce magnifique, cette utilisation, comment dire, des plans larges magnifiques. Parce que on le dit pas assez, en fait, Solima, c'est pas vraiment un réalisateur à la Leone, c'est un réalisateur à John Ford. C'est un réalisateur où par moments on sent qu'il cherche le naturalisme. On sent aussi, il nous avait parlé nous, du cinéma japonais, l'énorme influence de l'attention qu'on porte aux éléments dans le cinéma japonais. Je vous rappelle que King U était capable d'attendre pour filmer un plan avec une certaine lumière. On est en hiver, on va attendre le printemps. On recommencera le film à ce moment-là. Je vous rappelle de ça, qui était quand même incroyable. Voilà, ils n'avaient pas le numérique, hein, les gars, mais lui, il voulait une teinte d'image particulière, donc il attendait. C'est pas grave, on attend. Voilà. Solima, il s'inscrit dans cette continuité. C'est un très grand metteur en scène, vraiment méconnu. Il y a eu un bon bouquin sur lui, un livre qui s'appelle Sergio Solima, le cinéma au couteau, et qui est un livre qui est paru chez Rififi Édition et qui est signé Vincent Jourdan, qu'on avait reçu dans l'émission pour causer justement de Solima. Là, le film, on sent bien que il est un peu au bout de la formule, Solima, mais du coup, il pousse le curseur de l'action, des péripéties sans fin, parce que Cuchillo va rencontrer une femme complètement dingue, une blonde, qui jouait aussi dans les autres westerns de Solima. Il y a des scènes assez démentes. Bon, Milian cabotine à mort, on sent qu'il y a aussi une volonté d'aller chercher un aspect comique avec le personnage de Milian, mais il y a toujours, il y a toujours, en fait, ces développements politiques, en fait, qu'apporte Solima, qui est donc tout enfant, était jeune enfant. 14 ans, il est rentré dans le... Il était antifasciste. Il a dû combattre les armes à la main, les fascistes. Il a pris le maquis. Il a été dénoncé, ce qu'il nous avait raconté par sa compagne, enfin sa petite copine de l'époque, qui était la fille d'un militaire mussolinien. Voilà, donc il sait de quoi il parle, et surtout, c'est pour ça que ça le passionne dans son cinéma. Il parle souvent, en fait, de l'inversion des valeurs, c'est-à-dire de comment deux personnes, ce que je vous expliquais à l'instant, vont se nourrir, ou plusieurs personnes vont interagir et vont changer. Dans ces films, les personnages évoluent tout le temps. Et par exemple, dans le premier film dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Corbett qui va évoluer. Il va changer d'avis sur ce péon. Vous savez, du coup, qui survit, hein, le péon, puisqu'il est dans le troisième. Dans le deuxième... il s'appelle Jack Beauregard, hein, le chef de la Horde Sauvage, qui est plutôt une communauté anarchiste, en fait. C'est pareil, au contact de Jack Beauregard, à la fois l'instituteur va changer pour devenir un monstre, à la fois le détective de la Pinkerton va changer, parce qu'il va s'apercevoir aussi que Jack Beauregard, lui aussi, change, en se rendant compte de ce qu'est la monstruosité, en voyant cet instituteur. Bon... On est vraiment là au centre de ce qui nourrit le cinéma de Solima. Et on va retrouver ces thématiques-là dans ce volet, un peu moins poussé, mais on va les retrouver. Et on va aussi retrouver son point de vue politique à travers des personnages d'occidentaux qui viennent s'enrichir sur le dos des prolos, sur le dos des Mexicains. Mais on va aussi retrouver, ces vrais faux révolutionnaires, ces apôtres de la bien-pensance. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on a dans les films de Solima. Mais je dirais que celui-ci, ce qu'il caractérise plus par rapport aux deux autres, c'est qu'il est plus latin. Sans doute aussi parce qu'il a peut-être laissé un peu plus les rênes à Thomas Milian, les anecdotes de tournage, hein, qui sont phénoménales, mais on sait par exemple, c'est Corbucci qui raconte que sur le tournage de Compagneros, Thomas Milian faisait les pires saloperies à son partenaire parce qu'il ne pouvait pas se saquer. D'ailleurs, dans Faccia a Faccia, Gian Maria Volonté qui fait l'instituteur et Thomas Milian ne pouvait pas se saquer non plus, et Solima explique qu'il en a joué pour faire le film. Et donc là, dans ce troisième volet, c'est un petit défaut, c'est qu'il n'a pas d'antagoniste. Il écrase tout, en fait, Thomas Milian. Il est plus fort que les autres, quoi, voilà. Et du coup, le film a un côté plus latin, parce qu'il a un côté plus farcesque. Et pourtant, la BO est sublime, il y a une chanson qui est superbe. Et pourtant, le film ne nous masque pas la vérité. C'est-à-dire qu'on voit des exécutions sommaires, on voit l'horreur de ce que charrient toutes les guerres, toutes les révolutions, toutes les luttes armées, qui malheureusement, comme on dit dans Cauchemar en cuisine, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Solima le montre bien. C'est un grand cinéaste humaniste, en fait, Solima. Et je trouve que ce Saludo Sombre de 68 traduit bien aussi l'euphorie qui régnait dans le camp de la gauche, alors en Italie. Contrairement d'ailleurs à un Corbucci qui, lui, va commencer à la même époque à tirer le western italien vers quelque chose de plus noir et à nous amener vers le grand silence. Écoutez Culture Prohibée. je sais, toi, Thomas, que tu veux me parler de deux films. De deux films qui sont, pour certains d'ailleurs, et assez durement, je trouve, je ne suis pas d'accord avec ça, qui sont considérés comme deux films qui ont enterré le genre, alors que le genre était déjà mourant, en fait, et c'est juste deux films qui ont essayé de faire autre chose, quoi.
Oui, je ne vais pas me lancer dans une analyse aussi poussée de ces deux films que toi, là. Je ne suis pas aussi expert que ça, que toi pour le western italien, mais en tout cas, c'est deux films que j'aime bien, enfin, surtout un que j'aime vraiment beaucoup. Et le crois-tu ou pas, Jérôme, mais je ne l'ai découvert qu'assez récemment. On l'appelle Trinità. J'ai découvert quoi, il y a 4 ou 5 ans. Moi, je connaissais le titre, je connaissais. Bien sûr, le duo Terence Hill, Bud Spencer, mais c'est un film que j'ai découvert assez récemment et j'ai été heureusement surpris de voir ce film, de le découvrir, de voir qu'en fait, bah, c'est un bon film. Donc, on l'appelle Trinità, c'est un film réalisé en 70 par Enzo Barboni, Enzo Barboni qui a travaillé avec Sergio Leone. Et là, on respecte, c'est un film qui respecte la tradition du cinéma italien, mais cette fois, l'ironie de Sergio Leone laisse la place à un humour un peu plus potache, on va dire. C'est beaucoup moins fin. Et donc, c'est peut-être ce qui nuit au film.
Et il a surtout été, parce que tu as parlé de Sergio Leone, il a surtout été, c'est pour ça que c'est un peu dur après comment ils l'ont descendu, là, tous, là. Parce qu'il a surtout été il a sauvé un paquet de films. Ce Corbucci, quand on lit les bouquins sur Corbucci, il était un peu en dilettante quand il faisait ses films. Ça se voit d'ailleurs sur certains films. Et c'est Barboni, qui était son directeur photo, et qui, paraît-il, a beaucoup réalisé les films de Corbucci. Voilà, donc c'est important de le savoir quand même.
Oui, parce que la réalisation de Barboni, elle est propre, quoi. Les films sont propres, vraiment, c'est une bonne réalisation. Alors on peut regretter le côté qui va vraiment vers la comédie. On l'appelle Trinità, mais il y a vraiment une belle réalisation. C'est vraiment c'est un vrai western. Donc, on l'appelle Trinità, c'est l'histoire de Trinità. On voit un mec qui est dans un hamac traîné par un cheval qui pionce qui est sale, avec des vêtements déchirés. On le voit débarquer dans une auberge où il y a trois gars qui malmènent un Mexicain. Et lui, il remet un peu les pendules à l'heure et puis il leur pique la bouffe. Il y a une scène qui dure assez longtemps, il mange des faillots de façon assez grossière quand même. Hein. Et puis bon, il finit par flinguer les trois gars qui sont vraiment des sales types. Et en fait, il se dirige vers une ville où il retrouve son frère incarné par Bud Spencer. Bon, enfin, son frère, son demi-frère, hein, si je comprends bien, hein, vu qu'en fait, leur mère est une prostituée et que donc, ils n'ont pas forcément le même père. Donc, les deux frères, c'est un peu des frères ennemis. Hein. Ils s'aiment bien, mais ils sont pas... Ils ont des choses à se reprocher tous les deux. Et en fait, dans cette ville, Bud Spencer incarne donc ce frère et il est le shérif. Mais il est un peu le shérif par erreur. On l'a pris pour quelqu'un d'autre. Trinità retrouve donc son frère shérif, incarné par Bud Spencer. Bud Spencer qui est un peu donc le shérif bambino. Hein, en fait, il est shérif par inadvertance parce qu'on l'a pris par quelqu'un d'autre. Mais en fait, ces deux faux frères, ces deux demi-frères, sont en fait des petits hors-la-loi, des petits malfrats recherchés par la police. Mais ce sont des hors-la-loi qui ont quand même, malgré tout ce qu'ils peuvent dire, ils ont un grand cœur. Et dans cette petite ville, pas très loin, il y a une communauté religieuse, genre communauté amish, quelque chose comme ça. Enfin, des gens qui sont pour la paix, qui ne veulent pas toucher des armes, etc. Avec des jolies demoiselles dont notre Trinità tombe amoureux, bien sûr. Hein. Mais il y a aussi, à côté, un éleveur de chevaux qui ne veut pas que cette communauté s'installe dans la vallée pour qu'ils puissent récupérer les terres. Évidemment, on reste dans un discours politique plutôt de gauche, hein, où le capitalisme veut bien sûr piquer la place aux classes les plus populaires. Mais ça, c'est un petit discours politique, c'est assez effleuré, on va dire. Mais surtout, il reste le western. Alors, ça respecte vraiment les codes du western italien. Les cow-boys sont sales, avec les méchants éleveurs, les méchants entrepreneurs, et puis la communauté les plus populaires. Et donc, c'est nos deux hors-la-loi qui vont remettre tout ça dans le droit chemin, qui vont se mêler un peu malgré eux quand même. Parce que ce qui les intéresse, c'est quand même la part du gain aussi. Hein. Enfin, surtout Bambino, lui, il veut pouvoir récupérer les chevaux pour pouvoir se faire de l'argent, etc.
Sleepy type guy always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun. Boy, when you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his car. Seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun, he's the top of the West. Always cool, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy? Who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use his gun.
Vous écoutez Culture Prohibée, spécial western italien.
Le film aussi entre le respect du genre un peu sérieux, parce qu'il y a un petit peu de violence, et la pure comédie. Et c'est là qu'il va poser les bases de ce fameux duo Terence Hill, Bud Spencer, où il y aura plein de déclinaisons différentes qui les mettent en scène, avec à la fin toujours une énorme bagarre à main nue, avec une façon de doubler les torgnoles qui est quand même très, très typique du cinéma italien.
Alors c'est vrai que ce n'est pas du tout des films à message, on est loin du film de Solima dont on parlait avant, mais par contre, Bourpif et Taloche, hein, ça envoie du lourd, ça pète pas mal aussi, c'est grivois, c'est, voilà, mais je suis d'accord avec toi, c'est très très bien photographié, les couleurs chaudes du western sont là, c'est très beau. Oh, les copies de Rimini sont très bien, d'ailleurs le bonus, Stéphane Lacombe qui connaît bien son sujet, c'est pareil, dans les bonus, si vous n'avez qu'un bonus à regarder, regardez celui-là, vous allez voir, c'est très complet ce qu'il dit. Moi, ce que j'aime beaucoup en fait dans ce film, c'est que Thomas, on retrouve notre... Ah, bah, pas toi en fait, mais moi je retrouve mon âme d'enfant, parce que moi c'est les films de mon enfance en fait. Et c'est vrai qu'en fin de compte, il y a un peu de violence, mais pas tant que ça. En fait, ils règlent leur compte à coups de baffe dans la gueule, quoi. Et c'est complètement hilarant, en jouant aussi des clichés avec est-ce qu'on va péter la vitre ou pas dans le bar, est-ce que... Voilà, c'est... Et puis tu l'as dit, cette alchimie, elle fonctionne parfaitement, quoi. C'est le colosse bourru, mais qui est en même temps super, super gentil, quoi. Et puis Terence Hill, le beau gosse, mais qui est un peu idéaliste, contrairement à l'autre, qui est plus cynique, quoi. Mais je trouve que ça fonctionne super bien, quoi.
J'ai pas vu ce film-là avec Buzz Hill et Bud Spencer, mais j'en ai vu plein d'autres quand j'étais môme. Donc, non, moi aussi, il y a un côté nostalgique, enfance, etc. Mais j'ai vu les Super Flics de Miami, j'ai vu Cul et Chemise. Il y en a plein qui passaient sur la 5 pendant un temps. Donc c'est, non, je connais bien ces films-là. Hein.
Et, enfin, je sais que t'es comme moi, on en a vu au cinéma aussi.
Moi, j'ai vu les Super Flics de Miami au cinéma. Alors, puis il y a toujours des séquences où Terence Hill fait preuve de sa dextérité. Ah ouais. Au pistolet. Alors lui, il tire sans viser. Hein. Si vous essayez de lui tirer dans le dos, il se retourne pas, il dégaine, il tire. Hein. Voilà. Il est très fort. Donc il y a toujours des scènes marrantes dans les saloons. Il détourne les bagarres à main nue dans les saloons de façon plutôt hilarante. Moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup On l'appelle Trinita. Donc forcément, le film a eu du succès. Forcément, donc ça, je disais que ça posait les bases de ce duo, hein, Terence Hill, Bud Spencer. Et forcément, il y a une suite.
Avant la suite, quand même, avant qu'on parle de la suite, il faut dire déjà, c'est vrai que quand il tire, il ne subit même pas le recul de l'arme. Hein, il est trop fort. Non, mais il y a une scène vraiment mythique où les méchants, parce qu'en fait, c'est un film très basique. Il y a les méchants, il y a les gentils. Hein, voilà. Mais les méchants vont dans le camp des Amish pour leur mettre une tôle et leur foutre des baffes à un moment. Et ça va pas se passer comme ils ont prévu. Parce qu'au niveau baffes, dans la baffologie, nos deux Lascars, faut pas leur raconter des cracks hein, quand même. Hein. C'est eux les maîtres du bourre-pif. Hein, voilà. Non, je voulais juste souligner que j'adore cette scène. C'est une scène que je me repasse en boucle. Voilà, et j'aime beaucoup. Donc, pour rappel, c'est sorti chez Rimini Édition, qui n'a pas sorti tant de western que ça, Rimini, donc c'est important de le dire, c'est sorti chez Rimini.
Écoutez Culture Prohibée.
Et Thomas, tu commençais à dire qu'il y a une suite, et il y a une suite qui est sortie aussi donc chez Rimini.
Oui, on continue à l'appeler Trinita, toujours de Enzo Barboni, réalisé l'année suivante, en 71. Bon, il est moins bien. Il est moins bien, parce que je pense que vu le succès du précédent, là, ils orientent vraiment vers la comédie. La violence, elle disparaît. Là, c'est 100% bourre-pif. Ça reprend, bon, bien sûr, ça reprend les mêmes, la structure similaire. Ça commence avec Trinita, toujours dans son hamac, traîné par son cheval, qui arrive quelque part. Alors, il y a une scène hilarante au départ où il rencontre trois gars, il leur pique à bouffer, puis. Enfin, les mecs, ils veulent lui voler son cheval, en fait. Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire aussi. Et ils se font avoir lamentablement. Et après, bon, il y a toujours cette scène, il y a encore une scène où il retrouve son frère, cette fois chez leur mère. Alors, c'est une scène mythique aussi où ils mangent comme des porcs. Mais en plus, ils sont d'une saleté mais incroyable. Ils prennent un bain, le bain, l'eau, elle est noire. Enfin, c'est. Et. Ça reprend un peu le même schéma que le film précédent, avec un méchant entrepreneur, un méchant éleveur contre des gentils. Là ici, ce sont des moines, hein, voire un petit village, hein, ou avec une histoire de trafic d'armes. Enfin, c'est pas très clair, parce que je trouve que le film. Moi, enfin, j'ai vu la version de 1972, le doublage de 1972. Le Blu-ray propose deux montages. Il y a le montage de... Non, j'ai vu la version de 82 avec Patrick Poivet. Il y a la version de 72, le doublage de 72. Il n'y a pas la... Je crois qu'il n'y a pas la VO. Je ne suis pas sûr. Mais si, il y a la VO. Mais ce n'est pas les mêmes montages. Moi, je n'ai pas regardé les deux montages. J'ai vu que le montage de 82.
Non, je rappelle comme ça, il n'y a pas de VO en fait. Puisque les Italiens post-synchronisaient tout. Juste pour être précis, mais effectivement, la version proposée est en italien.
Et donc, il y a deux montages différents. Dans le montage que j'ai regardé, donc le montage de 82, eh ben, il y a des trous, je trouve, au niveau du scénario. Il y a des choses qui ne collent pas. Enfin, Trinita tombe amoureux d'une jolie blonde, bien sûr. Il veut sauver la veuve et l'orphelin, bien sûr. Ben, au départ, ils veulent être détroussés de pauvres fermiers qui ont... qui ont une roue cassée, etc. Mais finalement, ils finissent par les aider. Et donc, pour les beaux yeux de la belle, ben, ils vont se mettre contre ce méchant éleveur qui trafique des armes, évidemment. Mais Bambino, lui, il a toujours une idée derrière la tête, c'est de se faire du fric sur le dos de tout le monde. Alors moi, je trouve qu'il est beaucoup moins bien, mais il y a quand même des scènes d'anthologie. J'aime beaucoup la scène du jeu de cartes.
Oui.
Ah, la scène du jeu de cartes me fait mourir de rire. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Il joue sur la longueur des plans, sur la longueur des gestes, etc. C'est très drôle. Moi, je suis mort de rire. Et il y a aussi cette autre scène, encore une scène de bouffe. Ils vont dans un club huppé. Et en fait, ce sont vraiment des villageois, quoi. Ce sont des villageois. Ils ne savent pas se tenir à table. Et ils foutent le bordel, quoi.
Un couche dégaine, un couche cogne. C'est un jeu que tu connaissais pas, ça. Hein, je vais t'apprendre. Arrête, il est tard. T'as compris?
Bon, il est beaucoup moins bien, mais moi, je trouve que ça vaut le coup, rien que pour le duo Terence Hill, Bud Spencer, puis aussi parce que on aime bien les western spaghetti, ou western italien, pardon.
Ne va pas me fâcher, hein, voilà. Hein, c'est, parce que l'appellation western spaghetti, c'était vraiment quelque chose de condescendant, en fait. Hein, qui est resté, mais c'était vraiment quelque chose de condescendant et qui appréciait pas du tout, par exemple, quelqu'un comme Tonino Valéry. Hein, ça, moi, il me l'avait dit. Il dit je ne fais pas de western spaghetti, je fais des westerns. Ça, il voulait surtout pas entendre ce mot-là. Je me rappelle d'une conférence de presse où il a gentiment éconduit un journaliste. Voilà. Très franchement, moi, je suis content que les deux films précédents, Sugar Colt de Franco Giraldi et Saludo Sombre de Sergio Solima, soient sortis en 4K chez nos amis d'Artus Film, parce qu'Artus Film, on le dit pas assez, qu'ils ont une politique éditoriale qui est hyper cohérente et je suis sûr qu'ils vont nous en sortir d'autres, quoi. Les connaissants, ils font un travail incroyable comme Artus Film, je pense qu'on peut le dire. Dans l'édition de Cinéma Bis, comme nous on aime, enfin moi en tout cas comme j'adore, je retrouve bien là avec Thierry Lopez, que je salue, avec qui on a fait dans le Fanzina nos premières armes ensemble et tout, et cet amour du cinéma bis qui est porté à travers tous ces films qui sortent, et cette obstination, puisque là, ils ont eu un peu de mal à les sortir par rapport à des problèmes techniques, mais ça vient quand même, ça arrive, et ça, ça fait vraiment plaisir. Et puis, Rimini qui se met à sortir des westerns il y a quelques mois, on a eu aussi chez Bubble Pop, on a eu, et maintenant on l'appelle El Magnifico, qui est le troisième, de, qui n'est pas le troisième Trinita, attention, mais qui est le troisième de Enzo Barboni avec Terence Hill. Bon, puis là, donc les deux Trinita qui sortent chez Rimini, hein, on l'appelle Trinita, on continue à l'appeler Trinita, c'est quand même des super bonnes nouvelles avec les différents montages, tu l'as dit, des très bons bonus animés par Stéphane Lacombe. Et puis, tu l'as dit aussi, il y a un truc qui caractérise ces films-là. On dit toujours que la comédie, c'est le rythme. Et en fait, Enzo Barboni, dans les trois films, là, par contre, dont je viens de parler, il fait un choix. Alors, c'est bon enfant, c'est très humaniste. C'est pour ça aussi qu'on aime bien ces films-là dans la période que l'on vit. C'est bien de voir des films aussi bon enfant, mais pas condescendant, naïf, mais pas abêtissant. Et en fait, il fait le choix, Barboni, ce qui est très étonnant hein, quand même pour des comédies. Il pourrait, je pense, accélérer le rythme de ses films, les ramener à l'heure et demie. Ils font tous deux heures, en fait. Il fait le choix d'un rythme étiré qui est une véritable tradition du western, en vérité. Il fait le choix d'étirer le rythme. Ça, c'est un truc qui est rarement souligné par les critiques parce qu'on avait tendance à beaucoup mépriser ce monsieur puisqu'on considérait qu'il avait tué le western italien. Et en fait, non, il étire les plans, il étire, mais pour en tirer aussi toute une substance comique. Et il y a plein de choses qu'il fait. Il utilise la grammaire cinématographique du western, et en particulier de la manière dont elle a été popularisée par Léone, par exemple, pour la transformer, la retourner, tout ce qui est dramatique, le retourner en truc gaguesque. Et ça, c'est quand même assez balèze, en fait, en vérité. Évidemment, Barboni, c'est pas... vous n'allez pas découvrir Kubrick, pour ceux qui vont le découvrir là. Mais par contre, vous allez découvrir alors un directeur de la photo qui est vraiment excellent, et puis un metteur en scène appliqué qui fait... Il n'y a que des beaux plans dans les films, en fait. Après, on aime, on n'aime pas, on peut considérer que ça manque de rythme, que c'est un peu décousu, voilà. Ça, je veux bien, mais je suis d'accord, je partage. Mais on fait quand même plus beaucoup de films mis en scène avec autant de soins.
C'est surtout le deuxième qui est décousu, hein. Enfin je trouve. Je n'ai pas vu les deux montages, ceci. Il paraît qu'il y a une différence. Et en plus, on continue à l'appeler Trinita. Il y a donc les deux doublages français, celui de 72 et celui de 82. Pour ceux qui ont connu les films dans les années 70, ou comme ceux qui, comme nous, l'ont connu dans les années 80. Moi, je suis plus habitué au doublage de Patrick Poivet. Mais effectivement, comme tu dis, on peut trouver ça, cet humour un peu potache. Mais cette scène de cartes, justement, c'est un humour un peu plus anglais, je trouve. En jouant sur la durée, on est dans un humour un peu pince-sans-rire, où on voit la complicité entre les deux personnages.
Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et Radio Graphite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Thomas Rolandi, le loup-garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.